racing or watching.
La dispute. Ce soir, la musique. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Spino, Grégoire Difior et avec Anna Baron et Josué Morel. Cette semaine, prise de son assurée par Jacques Ezubert, réalisation Daniel Finot autour de moi. Ce soir, Mathilde Serrel, Pascaline Podevin et Hugo Cassavetti sur nos platines Tribute to Two. On expliquera le titre, hein, de Jim James. Le double CD-DVD Marquis de Sade live à Rennes, 16-09-17 et Revival d'Eminem. Josué Morel est à mes côtés et va surveiller les pages Twitter, Facebook pour savoir si vous avez écouté et avez des commentaires à faire sur ces disques. N'hésitez pas, évidemment. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des invitations pour l'exposition Artisans de la scène. C'est jusqu'au 11 mars au Centre National du Costume de Scène à Moulins. Et nous ouvrons cette émission avec le deuxième album solo de Jim James, le leader de My Morning Jacket. Vous attendez pas ce que je commence par là, hein, Mathilde Serrel, hein, je vous ai bien eu. Ça commence bien 2018. Le disque s'intitule Tribute to Two. Tribute to deux, en fait. Donc en anglais, je parle sous le contrôle de notre citoyen franco-britannique bien-aimé Hugo Cassavetti. Vous le dites comment, vous ?
Tribute Toutou, comme la maison de Toutou pour les plus anciens.
Oui, il n'y a que nous deux qui comprenons. 11 reprises dans cet album, un album de covers, donc, en bon franglais, qui nous fait voyager surtout dans les années 60 et 70 avec cet américain, donc Jim James, compagnon de méditation transcendantale de David Lynch. Bon, c'est sur sa carte de visite. On commence en douceur avec la première plage du disque I Just Wasn't Made for These Times.
Looking for a place to fit where I can speak my mind. I've been trying hard to find the people that I won't leave behind. They say I got brains, but they goes wrong. Sometimes I feel very sad. Sometimes I feel very sad. Sometimes I feel very sad. I guess I just wasn't made for these times. Every time I get the inspiration to go chase things around, no one wants to help me look for new things might be found. Where can I turn when I feel where the just wasn't made for this time.
Fini ? Oui, c'est vraiment fini. J'attendais finalement la fin de cet accord plaqué de Jim James, extrait de ce nouvel album, Tribute Toutou. Hugo Cassavetti, Jim James.
Jim James, alors bon, on peut partir du titre du morceau, I Just Wasn't Made For These Times, qui est une donc, remake d'un morceau de Pet Sounds, des Beach Boys. Non, Jim James, c'est... c'est étonnant, mais il y a toute une famille maintenant de musiciens depuis une vingtaine d'années aux États-Unis qui me passionne. Il vient de Louisville, Kentucky déjà. C'est important parce que Bonnie Prince Billy vient de là et il y a des certaines similitudes de ces excentriques musicologues un peu décalés. On les prend pour des néo-traditionalistes et en même temps sont ouverts sur tout. Et Jim James est assez insaisissable. Il est avant tout son activité principale, c'est le leader d'un groupe qui s'appelle My Morning Jacket, qui est un groupe assez passionnant, même si épuisant, puisqu'il peut couvrir absolument tout, de la country la plus néo-country traditionnelle jusqu'à du progressif. Il peut faire du métal. Certains le concernent dans les listes des plus grands guitar héros des temps modernes. Je l'ai vu, ils ont passé à Rock en Seine il y a quelques années, il y a eu une panne de coupure, il peut tenir 20 minutes à faire l'espèce de prêcheur dingue, mais métal. Et puis aussi, il a toute cette activité. Il a 40 ans, je crois, 39-40 ans. Et tout ce mouvement, je dirais que c'est un croisement entre Jeff Tweedy de Wilco, dans son éclectisme, c'est cette même famille, et avec un côté Todd Rundgren, c'est-à-dire qu'il est capable du meilleur comme du pire. C'est-à-dire qu'ils ont une culture musicale phénoménale. On les prend pour des espèces d'ours des cavernes. Et en même temps, on a l'impression qu'ils font du Prince à un moment. Et puis, sont capables de sortir un disque comme ça, qui est un disque effectivement très, très intime et personnel de sa part. Il avait fait ça il y a une dizaine d'années déjà avec un EP qui s'appelait Tribute One, d'où le Tribute Tout. consacré, alors là, à l'époque, exclusivement à George Harrison. Donc, on voyait pas forcément lien et pourtant tout prenait sens. Il faisait ça et aussi il le rejoignait, ce qui rejoint aussi le côté David Lynch, son côté assez mystique. Il a une éducation très catholique. Donc, il reprenait le côté un peu mystique de George Harrison pour reprendre quelques classiques, 5 ou 6, dont My Sweet Lord. Là, il a fait 2 albums solo entre-temps, avec toutes ses autres activités, des Monsters of Folk, avec... Parce que non, mais on pourrait mettre, il y a toute une famille, Conor Oberst, M. Ward, tous ces gens-là qui sont assez durs à saisir. Et là, cet album, c'est un disque qu'il enregistre depuis pas mal d'années, en revisitant... alors, son principe, c'est de prendre des chansons d'où qu'elles viennent, qui lui parlent, qui lui ont parlé à un moment. Donc, ça va de vieux standards de jazz, de country. Il y a même un morceau de Emerson, Lake and Palmer, Lucky Man. Et tout ça se tient parce que, voilà, il a 2 approches. C'est peut-être banal, mais en gros, une chanson, c'est... dès qu'on, il faudrait enlever les étiquettes, quoi. La plupart des gens sont juste se tiennent aux barrières des choses. Lui, comme c'est quelqu'un d'assez instable, donc il passe des périodes un peu de grosse dépression, donc, et qui ne vit, comme beaucoup de ces gens, que par la musique. Ça le rattrape, et donc les chansons prennent une valeur particulière. Ça va du Willie Nelson à... Et pour ce, juste ce morceau qu'on vient de dire, pour donner un exemple, c'est qu'en fait, ce morceau-là de Brian Whistle des Beach Boys, qui lui parlait, il a dit depuis la première fois qu'il avait entendu enfant, ça lui parle, il sait pas pourquoi. En même temps, je pense que tous, déjà, je sens que je suis pas de mon temps, c'est quelque chose qu'on a tous ressenti. Il y a pas que Woody Allen qui en fait des films pour lui à Paris. Et qui en même temps, c'est tout le paradoxe où, au contraire, heureusement, ce qui sauve dans la musique, c'est de toujours se sentir décalé. Et pourtant, la musique, cette musique pop universelle, est l'endroit où on arrive à se raccrocher et rentrer dedans. Et là, pour voir, il est parti donc ce morceau des Beach Boys en travaillant sur les notes de pochette qu'il écrivait pour une réédition de Hot Buttered Soul de Isaac Hayes, sur lequel il y avait une très longue version quand il faisait ses versions de 18 minutes. Alors j'oublie maintenant, c'est pas Do You Know the Way, The Road to Phoenix, je sais plus quel morceau. C'était pas celui-là. Il remixait, il travaillait ça. À force de l'écouter, il se mettait à chanter cette chanson-là, quoi. Et il s'est dit, tiens, je vais essayer de prendre ça et de voir ce que ça donnerait à la rencontre de, non pas de Curtis Mayfield, mais d'Isaac Hayes et de Brian Wilson. Et ça donne ça, d'où la fin avec le saxo. Ça pourrait durer 12 minutes, je pense. Là, il s'est tenu à 5. C'est le morceau le plus long, mais c'était un peu court pour du Isaac Hayes. Et voilà. Et tout l'album est un peu comme ça. C'est-à-dire que c'est très varié. Ça part dans tous les sens. On peut ne pas accrocher. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui m'emporte là-dedans. Et voilà, c'est Jim Jane, insaisissable, mais là, on arrive à le saisir. Et en tout cas, moi, enfin, personnellement,
vous arrivez à le saisir.
À le suivre, ouais.
Est-ce que c'est le cas de vos camarades, Pascaline Potdevin? Est-ce que vous êtes arrivé à saisir Jim James?
Alors, j'en ai saisi une partie. Moi, il ne m'a pas saisi tout le temps. Effectivement, je connais son côté connaisseur, pardon pour cette répétition, et presque son côté conservateur. En fait, on a l'impression qu'il est en train de se constituer à travers ses passions et ses chansons qu'il aime tant. Une espèce de Great American Songbook étendue jusqu'aux années 90, parce que je crois que les reprises vont jusque-là. Il y a des chansons des années 90 sur le disque. Et c'est assez beau. Ce qui est... Effectivement, on sent une ferveur incroyable dans le disque. On sent que c'est des chansons qu'il aime, qui lui parlent énormément. I Just Wasn't Made for This Time, ça le définit totalement, puisque c'est un homme comme ça qui se plonge dans ce passé de la musique américaine, anglo-saxonne, folk, traditionnelle. Dans un autre registre, The World Is Falling Down, qui est clairement aussi un commentaire sur l'époque de sa part. Après, voilà, j'ai l'impression d'entrer dans un musée, parfois, un peu plus que dans un album véritablement habité, réinventé. On sait qu'il est capable de réinterpréter les choses, notamment cette reprise des Beach Boys qui est magnifique avec son côté soul, mais parfois sur d'autres qui sont très minimalistes jusqu'à l'épure. Alors là encore, pour donner un cliché, mais on dit qu'une bonne chanson, c'est celle dont on enlève tous les arrangements quand il n'y a plus que la mélodie qui reste et où ça reste une chanson magnifique. Ça, c'est ce qu'on ressent sur la plupart des, sur certaines chansons. Crying in the Chapel, par exemple, qui est un sublime doo-wop des Orioles. Je sais pas si je le prononce.
C'est Elvis Presley aussi.
Voilà.
Et Orioles. Les Orioles.
Voilà. Mais du coup, on aurait presque aimé avoir plus d'arrangements de I'll Be Your Baby Tonight de Bob Dylan. Il y a eu Robert Palmer et UB40. On en pense qu'on veut, mais au moins, ça réinvente-t-elle la chanson.
Ah, dubitatif. Voilà. Hugo, je reviendrai vers vous.
Les Orioles sous les bras, moi.
Voilà. au moins, il réinventait quelque chose. Moi, c'est pour ça. Là, je l'aime. En fait, moi, là où je l'aime le plus sur ce disque, c'est quand il s'attaque au standard de jazz. Donc, Love is the Sweetest Thing et Midnight, the Stars and You de Ray Noble et Al Bowley, qui sont peut-être les chansons les plus éloignées de ce qu'il a l'habitude de faire, ou qui sont juste piano-voix, avec une voix comme ça, avec cette réverbe dont il a l'habitude, très sépulcrale, où à la fin, il se met à chanter dans une sorte de térémine humain. Ça donne une ambiance assez fantomatique, assez intéressante. On a presque l'impression d'avoir Thom Yorke qui jouerait dans un Woody Allen.
J'essaye de visualiser, voilà. Mais je suis pas sûr de vouloir, en fait.
C'est vraiment ce que j'ai visualisé. Eh bien, moi, ça m'a plu.
Bon,
voilà.
Moi, je suis pas sûr, mais ça correspond, du coup, à mon ressenti sur ces morceaux. Voilà. Mathilde Serrel.
Alors, déjà, c'est quoi l'intérêt de faire un album de reprise, plutôt que de publier, par exemple, les chansons que l'on aime, si on veut faire découvrir sa généalogie musicale?
Je sais pas, poser lui la question, peut-être.
Et moi, ce que je trouve intéressant,
c'est... Allô, Jim James.
Il y répond.
Une question pour vous.
Jim James, il répond. C'est-à-dire que, on peut avoir comme ça des propositions de trésor. Je vais vous dire, voilà, ça c'est ma boîte noire musicale. Si tu ouvres ça, tu vas comprendre ce que je fais, pourquoi j'aime ça, comment j'ai composé. Et en fait, c'est comme si c'était un commentaire sur ce qu'il ressent. C'est-à-dire que c'est tellement subjectif, je trouve, parfois, dans l'interprétation, dans le temps qu'il met à l'intérieur, dans les espaces qui se créent, que je trouve qu'il livre vraiment son commentaire, son ressenti. Et c'est là que je pense que ça a de l'intérêt, au-delà, en plus, de faire découvrir des choses qui sont absolument pas des standards. Quand on va aller chercher, on parlait des années 90 tout à l'heure, Abel Lincoln, moi je la découvre grâce à lui. Donc elle est chanteuse de jazz américaine, compositrice, parolière, elle a bossé notamment sur du Léo Ferré, ça l'a inspirée, c'est une femme forte. Moi c'était une figure que je connaissais pas particulièrement, il l'a mis en lumière, et c'est ça aussi, je trouve, de ce pouvoir de transmission de la cover. Je suis totalement d'accord avec Pascal, je trouve que c'est très intéressant sur les reprises des années 30, dépouillées au piano, et on le reconnaît ensuite davantage et un peu plus dans ses clous sur des réverbérations un peu à la Fleet Foxes, hein, ou toute cette génération folk quand il va s'attaquer à des Beach Boys ou quand il va faire Baby Don't Go. Et c'est plus intéressant donc sur les choses des années 30. Enfin, moi, il y a quelque chose qui me touche dans son parcours. Je trouve que c'est il peut faire des choses très ratées, quoi. C'est-à-dire que vraiment, dans ce disque, on peut absolument pas vous dire c'est magnifique, démarrer sur la première piste et puis aller jusqu'au bout. Je veux dire, il y a vraiment un truc totalement planté qui est I'll Be Your Baby Tonight, la reprise de Dylan. La voix de Dylan, elle est toute douce, elle dit on ferme la porte, je serai ton bébé ce soir, il va se passer des choses, etc. Là, la voix, ça va pas du tout. Il part dans des envolées aiguës, la country est surappuyée, c'est vraiment une reprise très laide. Et je trouve que c'est ça qui est agréable, c'est qu'il nous livre vraiment, voilà, ce qu'il ressent avec une inégalité totale et donc une mise à nu, une espèce de mise en danger. Et c'est ça que je trouve très fort, en fait.
Pascaline, d'accord sur ces quelques commentaires.
Entièrement d'accord, notamment sur le côté passeur de Jim James, effectivement, parce que moi aussi, du coup, je suis allée réécouter tous les originaux, voir les originaux qui avaient déjà été repris par d'autres, et j'ai fait la même découverte sur Abel Lincoln, voilà, qui est juste sublime. Et
parce qu'elles sont très jeunes, Hugo, nous on la connaît.
Oui, bien sûr.
On est un petit peu plus jeune. Mais non, et sur Lucky Man aussi de Emerson, Lake & Palmer, qui est un groupe moi que j'aime bien, mais j'aime plutôt l'aspect plus prog. J'avoue, j'aime Tarkus. Mais et du coup là, cette balade est très belle. Je trouve là aussi, elle dit quelque chose de notre époque parce que ça part d'un homme qui part à la guerre et qui perd tout. C'est une chanson, je crois que l'auteur a écrite quand il était ado, qu'il avait 12 ans. Voilà, c'est une histoire que j'étais heureuse d'apprendre. Donc voilà, Jim James, il a ce côté conservateur de musée. Parfois un peu ennuyeux, mais en tout cas le côté passeur est là et fonctionne très très bien, et merci à lui pour ça.
Hugo, dernier commentaire.
Pas tout à fait d'accord sur le côté conservateur, c'est que justement ce que j'aime bien moi dans ces disques-là, c'est qu'il est c'est éminemment personnel, c'est des chansons qui me parlent quelle que soit l'époque. Je trouve que justement le passage, c'est parce qu'on le sait, mais je suis pas sûr qu'on dirait que tiens, ça c'est un truc des 70s, ça c'est un truc des 80s. Je trouve que tout est un peu le Dylan, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça me dérange pas comme ça. Ouais. Et c'est juste dans une période où justement la question de Mathilde qui était à quoi servent les reprises. Oui, alors on peut avoir Syl qui chante exceptionnellement bien, mais qui sort les mêmes 10 standards. Parce que là, en plus, il y a quand même, voilà, contrairement à ce qu'il dit Mathilde, il y en a la moitié qu'on connaît peu, et la moitié sont quand même Funny How Time Slips Away, des trucs comme ça, il y en a 3000 versions quand même. Il n'est pas non plus, il n'a pas fait le malin en allant chercher des trucs très obscurs.
Mais c'est
ce que j'aime bien, c'est que ça fait un disque qui peut être personnel. En plus, ce n'est pas qu'un interprète, il fait énormément de disques, ses disques à lui. Le premier solo à lui, je trouvais assez remarquable. Et je trouve qu'il en fait quelque chose, quoi. Je trouve que c'est, voilà, le mot est idiot, mais il est habité, ce qui déjà, moi, me suffit, quoi.
Bah, l'une des qualités, je pense que si quelqu'un écoute ce disque, ne connaissant ni Jim James, ni aucune des chansons qui composent ce disque, il pourrait penser que c'est un disque de Jim James.
Ouais,
et ça, c'est quand même une très, très grande qualité pour un disque de reprise, parce que tant qu'à faire des reprises, on a envie qu'elles soient extrêmement différentes des originales. Et il amène vraiment absolument son univers. Alors, on y sera plus ou moins sensible, évidemment.
Ouais, c'est qu'on n'est pas dans l'exercice de style, non. Syl, ou même Julien Doré,
c'est
ou je sais
Jim
pas quoi.
James.
Voilà, c'est Jim James.
Voilà. Comment on dit, c'est quoi le verbe déjà? Qui s'accapare.
Qui s'accapare.
Qui fait
qui
ça
s'empare.
À sa façon.
Se réapproprie.
Se réapproprie. On va finir sur ce verbe, réapproprier.
Un peu de Colin Blundstone, moi j'ai trouvé aussi, le chanteur des zombies, je ne sais pas si vous l'avez
entendu. Arrêtez de faire la manine, le temps presse. Tribute toutou de Jim James chez Atto Records, à suivre dans la dispute Mark Itzad et Eminem.
France Culture.
La dispute
Arnaud Laporte.
Suite de cette émission donc consacrée ce soir à la musique avec Marquis de Sade, non pas que nous soyons jeudi, jour de la littérature, dans la dispute, mais parce que c'est l'un des groupes les plus importants de la scène française du tout long des années 80 qui a fait son retour sur scène il y a quelques mois, Marquis de Sade, et donc son nom n'avait plus donné de concert depuis le 6 juin 81. Ils ont renouvelé le 16 septembre dernier, concert enregistré et filmé à Rennes, forcément, leur ville. La date donne son titre à ce CD plus DVD qui sort chez Caroline. On écoute Brouillard définitif.
Aveugle, la lumière agonise, le jour mis en pièces, cicatrices sous les cendres, les nuits illuminées, éclaboussent et des cris d'ombres sauvages, ravis qui se laissent prendre, toute uniformité, de formes émoussées, fondues dans ce brouillard définitif.
Voilà les Marquis de Sade tels qu'on a pu les entendre sur la scène du Liberté le 16 septembre dernier, aujourd'hui en CD et DVD chez Caroline. Et un commentaire, Josué Morel, on va entendre le son de votre voix, nos twittos sont un peu fatigués en ce début d'année. Qu'est-ce qu'on nous dit?
Alors sur Twitter, Barbara Bucheval nous confie son bonheur à retrouver des voix et des musiques encore plus abouties et émouvantes qu'avant. Un vrai boulot sur le visuel, merci les Marquis.
Merci les Marquis. Donc, on ne va pas demander l'âge de Barbara Bucheval. Mais on peut se douter que ce sont des souvenirs qui reviennent. Ça... Comment on entend ça quand on est plus jeune que Hugo Casavetti et moi? Je me rappelle de cette tournée pour avoir vu les Marquis de Sade en concert à ce moment-là. C'était leur dernière tournée, sauf que je crois qu'on ne le savait pas à l'époque. Mais Pascaline Podevin, qui n'a pas vu les Marquis de Sade sur scène à l'époque.
Non, qui a à peu près l'âge de Marquis de Sade.
Alors, voilà. Comment on écoute ça aujourd'hui?
Eh ben, on écoute avec un peu d'appréhension, parce qu'en fait, c'est un fantasme, et les fantasmes, c'est fait
quand
pour
même, pas...
Quand
même, c'était que ça clignotait fantasme un peu, quand même?
Ça clignotait loin, mais ça clignotait un peu, mais voilà, pas... après, c'est voilà, mon goût personnel, mais ça clignotait un petit peu loin, quand même. Mais le truc avec le fantasme, c'est que c'est pas voué à se confronter à la réalité. Généralement, il vaut mieux que ça reste un fantasme. Et là, Marquis de Sade, c'est un fantasme pour... plein de raisons. Déjà que c'est un groupe qui n'a vécu que 4 ans, qui a eu 2 albums, donc qui n'a pas eu le temps d'être mauvais. Toute cette histoire entre les deux frères ennemis, Philippe Pascal le chanteur, Franck Darcel le guitariste, qui s'entendaient mal, et c'est pour ça que le groupe a splitté, qui ont eu ensuite des carrières parallèles très différentes. Fantasme parce que c'est le groupe, un des piliers de cette fameuse scène rennaise qui s'est incarné ensuite dans les transmusicales, qui est donc effectivement une scène culte de l'histoire du rock français. Fantasme parce que Marquis de Sade, c'est l'un des groupes emblématiques de ce qu'on appelle les jeunes gens modernes. On se rappelle de leur, enfin, on se rappelle, non, mais on connaît leur couve d'actuel avec leur maman, qui ne sont parfois pas leur maman d'ailleurs.
Avant Philippe Catherine.
Voilà, ouais,
bien
exactement.
Avant.
Voilà. Donc c'est, voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est un groupe qui a irrigué ensuite à plusieurs égards le rock français. Donc, problème, fantasme, réalité. Et là, ce qui est sidérant, c'est que ce live, moi je l'ai attaqué par le DVD, en regardant, parce que je n'étais pas au concert, c'est que le fantasme tient la route par rapport à la réalité. Le dive, je vais parler du concert, du DVD, qui est très beau. Déjà, une chose intelligente, c'est qu'il n'y a pas tous les titres. Je crois qu'il y a eu 22 titres joués. Sur le DVD, il y en a 13, sur le disque 10. Ça donne quelque chose d'assez ramassé, d'assez intense. Ça permet de ne pas se perdre. Ils sont tous les 4 en noir. C'est assez austère, mais très très beau, très poétique. Une très bonne idée aussi, c'est de ne pas trop filmer le public. Parce que justement, bon, déjà, on évite peut-être effectivement...
De voir Pascal Obispo.
Non, pourquoi pas? Non, il paraît qu'il y avait aussi Dominica, Étienne
Dao.
Dominique.
Ah oui.
Non, mais c'est vrai que ça aurait pu
Etienne
peut-être...
Dao, oui.
En fait... Pour le dire, ce qui est honnête, c'est que ça maintient le groupe comme ça dans une espèce de bulle poétique, esthétiquement super, avec les visuels derrière. Philippe Pascal, qui était un beau jeune homme à l'époque, et moi je le trouve encore plus beau maintenant. Il a moins les robots, les mouvements robotiques de l'époque, qui lui valaient des comparaisons avec Ian Curtis. Là, on a plus quelque chose de l'ordre du félin, entre le félin et l'oiseau de proie. C'est très beau à regarder, c'est très élégant, très digne. Et donc voilà, je trouve ça assez miraculeux que le fantasme tienne la route par rapport à la réalité. Après, je ne sais pas à qui ça parlera au-delà des fans, mais en tout cas, ça peut-être que ceux, justement, vous vous posez la question des plus jeunes, qui tomberont sur ces images et sur ce son, auront peut-être envie d'aller les voir parce que ça n'était censé être qu'un seul concert. Ils vont rejouer au Festival Art Rock et aux Vieilles Charrues.
Et alors, à Villette Sonic.
Et à la Villette Sonic. Alors, je crois qu'aux Vieilles Charrues, ils jouent le même soir que Dépêche Mode, donc c'est raccord.
Vieilles Charrues, 19 juillet, Art Rock,
voilà.
Le 18 mai à Saint-Brieuc. Et
que...
Villette Sonic, j'ai pas de date.
Ben non, mais je l'ai lu.
Je l'ai lu moi aussi, mais j'ai pas eu de confirmation, y compris sur le site du groupe, donc à vérifier quand même.
Mais moi, je me prends à penser, je dis, sur ces deux festivals, Art Rock et Les Vieilles Charrues, il y a Orelsan qui joue aussi, alors pas le même soir, mais sait-on jamais. Peut-être que des fans d'Orelsan iraient voir.
Ah, je croyais qu'Orelsan allait faire un featuring chez Marc Hudson.
On peut rêver.
Non, ou l'inverse.
En tout cas,
Pascal chez Orelsan.
Peut-être qu'il y a des publics
simple,
qui peuvent se...
C'est ce qu'il faut.
Voilà. Il y a peut-être des publics qui peuvent se croiser.
Mais ce serait bien.
Poursuivons le fantasme.
Mathilde Serrel, fantasme ou pas fantasme? Marquis de Sade, ça évoquait quoi pour vous avant ce disque DVD?
Ça évoquait pour moi la scène en fait que j'aime beaucoup et dont je parle souvent, qui est la scène, on va dire, underground américaine du début des années 80. Et j'essayais de comprendre en fait pourquoi est-ce qu'on a dit qu'à Rennes, à cette période-là, il y avait eu une effervescence incroyable, qu'il y avait eu des propositions musicales. Vous savez, c'est comme à Düsseldorf ou à Zurich, au moment où il y a eu Cabaret Voltaire. Pourquoi une ville tout d'un coup peut accoucher de quelque chose que l'Europe va regarder ou que le monde va regarder comme une puissance créative? Et moi, j'entendais beaucoup de New York dans les sons de Marquis de Sade, parce que j'aime la cold wave, et je savais qu'il y avait cette tradition du bateau qui était pas loin. Je savais que Franck Darcel, le guitariste, qui est aussi l'architecte sonore, a pris le bateau très tôt, à 15-16 ans, qu'il a fait des razzias de disques, etc. Mais je me disais, il n'y a pas que ce pont, finalement, anglo-français, assez simple à imaginer avec une ville comme Rennes. je pense que ce qui est très fort, c'est que lui, il va passer 4 ans à New York, Franck Dorcel, ça va vraiment le marquer. Il va voir des concerts incroyables au CBGB's et il va ramener cette espèce d'énergie qui fait le pont, mais pas le pont copycat, le vrai pont créatif, inventif, unique entre la scène cold wave new-yorkaise, entre ce qui se passe à Londres, peut-être à ce moment-là avec la scène punk fin 70, et leurs propres appropriations françaises qui sont nourries de, d'expressionnisme allemand qu'aimait beaucoup Philippe Dorcel. Il y a Marc Dorcel. Non, mais arrêtez.
Philippe Pascal
et Franck Dorcel. Si vous savez, si vous mettez Marc Dorcel dans la conversation, vous savez qu'on va pas s'en sortir.
Non,
c'est Philippe Pascal qui adorait l'expressionnisme allemand. Franck Dorcel, c'était plutôt
morceau,
le
Conrad Fight. Voilà. Clos,
c'était plutôt le futurisme italien. En fait, c'est des garçons.
Enfin, c'est-à-dire des idéologies parfois évidemment
un peu border,
douteuses.
Voilà. Mais
qui leur ont collé à la peau et ils se rendaient peut-être pas très bien compte, jeunes gens qu'ils étaient, de la dimension politique qui pouvait être charriée par leurs références.
Et avec des titres comme Nartun Nebel, bon, faut aussi faire attention quand on se positionne. Mais ce qui est le brouillard définitif.
Ouais.
Tout d'un coup, ça résonne. Mais c'est vrai que je pense que cette alchimie-là, elle est importante à souligner parce que c'est des garçons extrêmement cultivés, ce sont des influences et cette proposition esthétique qu'ils vont faire, parce que c'est avant tout un groupe esthétique, elle est forte, elle est éclair parce qu'elle est ramassée en 2 albums, 4 ans, donc forcément il y a une puissance. Ce live, c'est aussi un live éclair, il était conçu pour être unique, on ne devait pas avoir d'autres concerts derrière. Donc il y a tout pour faire un objet culte, il y a tout pour faire un objet de fantasme. Mais voilà, ce que je trouve agréable, c'est d'aller voir dans les strates d'influence et de se dire, tiens, c'était pas tout d'un coup la capacité de la France à faire un truc cool, ça ne sort pas comme ça.
Absolument. Hugo Cassavetti.
non, mais alors déjà, même si je suis de cette génération, aucun fantasme pour moi, c'est-à-dire je n'attendais pas ça, d'ailleurs je ne suis pas rué à Rennes, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure de Mika, Dao et Pascal Obispo, parce qu'il y a quand même un lien qui était dans Senso, le groupe d'Arcey, il a commencé avec ça. Donc il y a un fan club de prestige et c'était blindé, il y a plein de gens qui n'attendaient que ça. Mais j'avoue, je m'attendais à rien. En plus, un album live, ça fait un peu peur quand même, à limite y être. Et j'étais assez impressionné, quoi, de me dire, tiens, ça, alors est-ce que c'est par rapport au niveau ambiant et tout? Mais je me dis, non, mais il y a quelque chose de... Et je me dis, tout ce qui aurait pu me gêner à l'époque, c'est-à-dire ce côté zéro humour, c'est ce qui est un peu ce qui qualifie Philippe Pascal et le groupe, bizarrement, c'est ce qui les sauve. Comme ce côté un peu vieux avant l'âge, ben là, ils sont de leur temps, finalement. Il y a quelque chose qui se tient, il y a quelque chose de cohérent, et même soniquement. Et je suis assez impressionné par... En plus, on sait que là, les deux autres s'entendent pas, sinon ils seraient ensemble. Ils ont passé quand même, depuis, ça fait 36 ans à faire chacun les groupes de leur côté qui ressemblent à du sous Marquis de Sade. Quoi. Donc il manquait juste à l'un le chanteur et à l'autre probablement le guitariste. Quoi. Parce que Octobre d'un côté, Marc Seberg a fait une chanson remarquable qui aurait peut-être été le meilleur, c'est l'Éclaircie. Je trouve que là, ils avaient vraiment réussi quelque chose d'exceptionnel, mais rien n'était à cet auteur-là. Et ce qui m'a étonné, c'est d'écouter un live en disant « bon, je vais décrocher très vite », et ce disque tient la route, étonnamment. Quoi. Et quand je reviens à cette histoire de manque d'humour, de peut-être vu avant l'âge, c'est quand je dis que ça les sauve, c'est que ce qui me fait plaisir et qui marque à les réécouter, que tout ce qui paraissait peut-être un peu pompeux et prétentieux à l'époque, c'est justement, je me dis « enfin !» ce n'est pas ado, comme presque tout le rock français a ce truc-là, surtout poétique, quoi. Et on a eu Téléphone, il y a Noir Désir, Indochine et tout. Il y a toujours ce côté extrêmement ado, ce qui fait qu'on a du mal à les écouter, quoi. Et c'est vraiment trois tendances différentes, mais on est toujours un peu gêné quand on écoute les paroles. Là, à la fois assez risible, c'était la tendance, quoi. Je veux dire, en plus, ce côté même emblématique, il y a eu deux albums, on sait qu'un de leurs modèles, il y avait forcément le Velvet, les Stooges.
Il y avait Télévision.
Les trucs, Télévision, mais il y avait quand même aussi Joy Division, faut pas oublié,
et
qui a eu aussi deux albums, mais oui, qui sont leurs contemporains, et c'est ça que je trouve remarquable, c'est un des rares cas, il y en a très peu dans l'histoire du rock et du punk français. On a 10 des Stinky Toys, sauf que les 10 tiennent pas si bien la route, Metal Urbain, ça n'a pas duré longtemps, mais qui était en tout cas de façon contemporaine à la hauteur. Après, je pense qu'il y a eu par exemple les Rita Mitsuko, ont réussi ça, être à la hauteur de leur équivalent, et je pense qu'en réécoutant, on se dit que Marquis de Sade était la hauteur des meilleurs, ce qu'on appelle tenants de la cold wave anglaise, avec y compris tous ces clichés germanistes, ans, avec des références et tout, mais qui faisaient tous, quoi. Alors, oui. par posture ou par truc, après d'aller chercher grand-chose derrière. C'était juste au moins, justement, de ne pas être les Dogs ou ces groupes-là, sympathiques ouais. certes, mais assez anecdotiques. Je sais que ça en fera hurler beaucoup.
Mais je suis d'accord avec vous. Mais c'est vrai que c'était l'époque de la Deutsche Amerikanische Freundschaft, hein, les DAF, qui étaient aussi de la même époque. Et il y avait vraiment des liens et des ponts entre France et Allemagne, dans Berlin, qui était coupé en deux. Hein, je vous rappelle, parce que vous êtes très jeune, qu'à l'époque, il y avait un mur qui traversait la ville de Berlin. Non, mais ça fait partie de cette mythologie-là.
Allez-y. Ça sent pas la naphtaline.
Pas du tout.
Et je suis assez étonné, y compris même du chant de Philippe Pascal, qui est... je trouve qu'il y a une... Oui, voilà. Pour un groupe de vieux, je trouve, il y a une vivacité juvénile dedans. Et voilà. Et je trouve qu'il y a énormément de groupes aujourd'hui. On sait bien qu'on est revenu à ces choses des années 80. Il y avait le seul groupe de cette époque-là qui tient la route quand on les réécoute, qui n'existait plus, c'est Taxi Girl, je trouve.
Oui, bien sûr.
Qui garde quelque chose aussi de.
Oui, oui.
Et c'est, voilà. À méditer, mais peut-être juste parce qu'on est plus vieux, mais apparemment c'est pas que ça.
Non,
mais j'étais assez étonné que ce disque live comme ça, qui pourrait être anecdotique ou juste un truc pour vieux nostalgique, je trouve qu'il y a une force là-dedans qui m'a assez surpris.
Voilà. Oui, c'est pas vraiment ça. Moi, j'avais assez peur, je veux dire, de découvrir ce disque et ce DVD. D'ailleurs, j'ai commencé par le DVD, j'aurais pas dû parce que ça m'a fait un peu de mal. Enfin, c'était un peu violent, voir Philippe Pascal avec des cheveux blancs, enfin, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et en fait, j'ai beaucoup plus apprécié...
En fait, j'ai bien fait de pas recevoir le DVD.
Vous l'avez pas vu encore? Non, et après, j'ai écouté le disque et là, vraiment, j'ai pu être plongé dans l'écoute et vraiment, je vais pas répéter ce que vous avez dit très bien, mais très impressionné par la qualité de l'ensemble. Et du coup, après, j'ai pu regarder un peu plus détendu le DVD, mais il y a quelque chose qui, quand on les a connus à l'époque, est toujours un peu violent, surtout que 36 ans entre le dernier concert et le suivant, c'est presque peut-être le livre des records aussi, Mathilde Serrel, vous qui êtes correspondante française, je crois, du Guinness Book.
Exactement. Je m'occupe de toute la rubrique gastronomie également. On en parlera plus tard, mais en tout cas, je trouve que c'est peut-être justement la recette de comment ne pas faire les Rolling Stones, quoi, comment pas faire les papis du rock, comment faire justement un live où on dit pas à la super salle Arena, hey, vous avez vu, il y a des nouvelles toilettes. Oui. Ils ont quand même dit ça, les Rolling Stones.
C'est vrai.
C'est-à-dire qu'ils sont absolument pas ringardistes. C'est-à-dire, autant dans leur côté poseur radicaux, fin 70-80, il y a peut-être un truc agaçant, mais on pourrait penser que cette radicalité, elle va devenir kitsch. Effectivement, ça va perdre de sa charge rock, que ça va perdre de sa beauté, de sa superbe, et pas du tout justement ce live. Alors, comment est-ce qu'on fait pour pas être un papy de rock? La solution, effectivement, pas se voir pendant 36 ans, s'engueuler très fort, ne pas gérer les conflits,
et jouer les vieux morceaux.
Ne pas se reformer pour une raison commerciale. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est un type de reine qui est à la fois patron de label et graffeur.
C'est à cause d'une expo au départ consacrée au Marquis de Sade.
Qui fait les 40 ans du groupe Marquis de Sade et qui demande à des gens d'imaginer des graphes ou des peintures autour des titres. Et c'est lui qui va les convaincre, c'est lui qui va faire un peu l'assistante sociale dans cette histoire et qui va les convaincre de jouer ensemble. Surtout... ils y croient pas du tout, la section rythmique elle a complètement raccroché les wagons, donc ils essayent et je crois que c'est assez intéressant, c'est ce qu'ils ont dit, c'est que les titres tenaient tout seuls et c'est en fait la force des titres de ces compositions qui s'est imposée à eux et qui leur a rendu un peu l'obligation de le faire quand même, ce concert, d'essayer. Et apparemment, ils ont pris goût puisqu'ils recommencent.
Pascaline Potvin ?
Non, je suis d'accord avec Mathilde. Et aussi, du coup, ça m'a donné l'occasion. Encore une fois, on est quelque part dans une démarche de passeur, ce dont on parlait tout à l'heure à propos de Jim James, mais différemment. Parce que moi, du coup, j'ai découvert des choses aussi, comme ça clignotait dans le lointain. Et notamment sur leur histoire à tous les deux. Enfin, ils pouvaient vraiment pas se voir.
Ouais, y a une interview dans Libé, là, il y a une semaine ou deux, qui est très,
on n'est pas
très
amis,
bien.
On n'est pas potes.
Assez rare.
Voilà. Et du coup...
les tensions sont toujours vives.
Les tensions sont toujours vives.
Visiblement.
Et ça aussi, ça partit, je vais revenir sur ce que je dis, mais du fantasme. Comment, quand on ne s'aime pas, comment déjà peut-on former un groupe, se reformer 40 ans après, quand on n'est même pas amis?
Justement, c'est souvent ça qui marche.
Voilà.
Quoi. Mais c'est souvent le moteur
de
des meilleurs groupes.
En fait, leur histoire est romanesque aussi. Ouais. Et ça, c'est
Il faut interdire aux frères Gallagher de se voir pendant encore 30 ans. Et peut-être que ça donnera quelque chose.
C'est bien parti, je crois.
Non ?
Je crois que c'est bien parti.
Hugo,
mais
ils se sont trop vieux.
Je suis plus dubitatif sur le talent des frères Gallagher, mais je pense plus à Daltrey, Townsend, des groupes comme ça, qui ne sont pas entendus pendant 40 ans, et toute la friction et toute la tension, c'est ce qui a créé cette musique. Quoi. Et je pense que c'est pareil chez eux. Et juste pour finir, en tout cas, j'ai l'impression que je pourrais réécouter ce disque là où on était content de voir le Velvet à l'Olympia, mais personne n'écoute l'album live du Velvet à l'Olympia. Non ?
Non.
Des années 80.
Je vous confirme.
Il existe,
alors
il est là.
Alors que ce voilà. Double CD, DVD, il faut que vous regardiez le DVD maintenant, Hugo, le Marquis de Sade Live à Rennes, 16/09/2017 chez Caroline. Et donc, malgré ce qu'ils avaient dit avant cette date qui devait être unique, deux autres vraiment annoncés de façon ferme, 18 mai au Festival Art Rock Saint-Brieuc et 19 juillet au Vieille Charrue.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et le troisième sujet de cette dispute musique concerne un passeur, un pasteur quasiment. Neuvième album studio d'Eminem, 4 ans après le précédent. Fin de la trilogie du retour, débuté avec Relapse, poursuivi avec Recovery, maintenant avec Close, avec Revival. On écoute tout de suite le morceau Framed.
He gives a fuck, even his pinky swears. Three personalities, personatomy, please beware. Her TV blares, can't hear the creaking stairs. She's unaware, in no underwear, she's completely bare. Turns around and screams, I remember distinctly. I said I'm here to do sink repairs. Chop her up, put her body parts in front of Stephen Avery's trailer and leave him there. But hey man, I was framed. I know what this looks like, officers, please just give me 1 minute. I think I can explain. Hey, murder nobody, I know these words are so nutty, but I'm just here to entertain.
How come your shirt is so bloody?
There's a missing person, so what? He's got nothing to do with me. I'm almost certain I was framed. Woke up, it was dawn, must have knew something was wrong. Think I'm becoming a monster cause of the drugs that I'm on. Ducks on, there's a Tonka truck in the yard. But dog, how the fuck is Ivanka Trump in the trunk of my car? Gotta get to the bottom of it to try to solve it. Must go above and beyond, cause it's incumbent upon me. Plus I feel somewhat responsible for the dumb little blonde girl, the motherfucking baton twirler that got something upon.
Second murder with no recollection of it. Collecting newspaper articles, cutting out sections from it. Memories too fucked to remember. Destructive temper cut my public defender's jugular, then stuck him up in a blender. Another dismembered toddler discovered this winter, probably cause the disassembled body was covered up in the snow since the month of November. Oddly, I'm wanted for questioning. Them son of a bitches probably just wanna pin this on me. But hey man, I was framed.
Inside McDonald's Tuesday, in a Toronto Blue Jays cap, looking like your college roommate. With Rihanna, Lupe, Saddam Hussein, Bobby Boucher, or was it Cool J? The cops is on a goose chase. Just escape from the state pen for riffing. 8 women who hate men don't make it no weirder. I'm naked when I break in your basement. Under your baby's playpen, I lay in wait adjacent, facing the door, remaining patient while staying complacent. Sexual implications are continuing to get thrown. Insinuations are placed in little riddles and poems. Left on your pillow in hopes that when you get home, you'll get the hint, ho. I'm in your window. But it never occurred to me I could describe a murder scene in a verse and be charged with first degree, cause it just happened to match up perfectly with the massacre or the Burger King burglary. No officer, you see I was framed. Person, so what? He's got nothing to do with me. I'm almost certain
Voilà pour cet extrait du nouvel album d'Eminem. Alors, il y a eu débat sur le morceau qu'il fallait diffuser. J'avoue que ce Framed a été mon choix. Mathilde Serrel, vous auriez fait quel choix et pour quelle raison?
Moi, je vous avais proposé Arrows, qui est le titre de clôture de l'album d'Eminem, parce que...
C'est parce que c'est enfin la fin, c'est ça?
Et c'est vrai que c'est un soulagement, il faut le dire, au bout de 77 minutes. Non, c'est pas pour ça. Moi, je trouve que c'est un moment où il fait un point avec sa vie. Moi, j'aime le Eminem d'Eight Miles, j'aime celui qui parle de sa mère. Là, j'aime bien cette idée de parler de, d'être un mauvais père, d'être un mauvais fils. J'aime bien ses retours, en fait, sur lui. C'est ça qui m'intéresse. Et j'aime beaucoup moins, en fait, sa pose combative, même si je respecte, enfin, c'est un petit peu difficile. Est-ce qu'on est raciste ou est-ce qu'on n'est pas raciste? Oh, ben, on est quand même pas raciste, on est d'accord. Voilà, et l'injustice, bon, ben, c'est pas bien. Donc,
bah,
oui,
c'est Miss France.
Il est anti-Trump, il est pour le combat Black Lives Matter. Ça, c'est très intéressant parce que c'est quelqu'un qui, depuis 15 ans, travaille quand même très, très bien ce que c'est. C'est pas Russell Banks, hein, mais il travaille quand même très, très bien ce que c'est que cette puissance blanche dominatrice, ses effets dévastateurs aussi, les populations pauvres, etc. Donc, il a normalement la plume, il a l'outillage, il a les références, et puis il se rate complètement dans tout ce qui est engagé, comme Like Home avec Alicia Keys sur donc la haine des suprémacistes blancs, la comparaison, le point Godwin tout de suite, hein, Hitler, Trump, voilà, comme ça, c'est fait. Il le compare aussi à un canari, je crois, à un moment. Il y a aussi un titre qui était sorti en clip, qui était le Uncharged, je ne sais plus, attendez, excusez-moi, je me permets
je
ça.
Je ne sais plus.
C'est un autre titre très engagé de cet album. Et en fait, c'est ça qui est gênant dans l'ensemble de la proposition. Moi, je préfère quand il revient donc sur sa vie personnelle. Mais au fond, je me suis posé cette question. Est-ce que lorsqu'on s'adresse peut-être à l'ensemble de l'Amérique, qu'on fait un disque aussi pop, avec autant de featuring, il y a Nicki Minaj, je l'ai dit, il y a Alicia Keys, il y a une production qui est donc le producteur de Rihanna qui est aux commandes, plus Rick Rubin, donc producteur historique des Beastie Boys. Il y a une sorte de casting comme ça, de rêve, où on sent qu'on veut élargir, donc on sent qu'il veut parler à un maximum de monde. Est-ce que pour parler à l'électeur de Trump, est-ce que pour parler peut-être à ce white trash américain, il ne faut pas à un moment aller le chercher sur son terrain et peut-être moins
y a Ed Sheeran, non
dans des choses indirectes que lui va par exemple aimer comme Kendrick Lamar. Il va écouter Kendrick Lamar, il sent bien qu'il n'est pas dans ce game-là. Eminem, il est en dessous, à 45 ans, on a parlé de cet album comme le pire de sa carrière, voire le pire de l'année, l'album Papi, l'album Has-Been, enfin il en a pris quand même plein sur la casquette. Mais lui, il y va frontal, il n'y va pas du tout, je dirais, avec une cohérence de rap, avec une espèce de délire pop, où il s'amuse avec peut-être l'autoradio du white trash. Et il va prendre Joan Jett, I Love Rock'n'Roll, il va prendre les Cranberries, In Your Head, et peut-être qu'il va finalement aller chercher les lecteurs de Trump sur un terrain qui lui parle davantage que Kendrick Lamar, j'ai pensé.
C'est la théorie de Mathilde Serrel. On aura un nouveau jingle bientôt dans la dispute pour la théorie de Mathilde Serrel.
C'était Untouchable, le titre dont
Merci.
Je parlais tout à l'heure.
T'es avec Beyoncé?
Non, c'est celui où il dit qu'une vie d'homme blanc vaut trois vies d'homme noir.
Hugo Cassavetti.
Alors effectivement, le choix du morceau était difficile parce qu'on pouvait en choisir en fait n'importe lequel, puisque chacun pouvait illustrer une des thèses sur ce disque. Oui. Raté ou réussi.
Non, oui, mais c'est vrai.
Oui, exactement.
C'est vrai.
Alors il peut poser deux questions. Ça peut être déjà comment vieillir quand on est Eminem, ou tout simplement qui est le problématique qu'il y a eu pendant le rock pendant des années qu'on n'a toujours pas résolu. C'est maintenant le rap qui a 20, 25 ans, 30 ans, qui en est maintenant. Qu'est-ce
35.
Qu'ils font? Est-ce qu'on disparaît? Est-ce qu'on devient juste un businessman, ce que font les Puff Diddy, même Jay-Z, ils font Diddy, c'est ce qu'ils font à un moment, ou est-ce qu'on continue à essayer? Voilà, on parlait des Stones tout à l'heure, à essayer qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on est un rappeur à 40 ans, à 45 ans, surtout quand on vient d'être l'icône white trash qu'il a été, et que c'est ce qu'on a aimé chez lui, quoi, ce côté, d'alien qui sortait inversé, qui était ce petit blanc qui arrivait dans cet univers quasi exclusivement noir, qui arrivait avec ce flow extraordinaire et ce sens des mots, et qui avait ce don quand même exceptionnel, qu'on l'aime ou pas, pour faire des tubes avec des qui accrochaient avec des refrains. Et il y avait comme une flopée de titres. C'est un des rares qui a enchaîné autant de titres aussi forts, des vrais tubes, mais qui étaient pas du frelaté, c'était pas du Vanilla Ice. Et le tandem qu'il a fait avec Dr. Dre et des choses comme ça est quand même assez incroyable. À poser la base de tout ce qu'il essaye de faire, quoi. Et à l'époque de Stan, la différence, c'est qu'il avait sorti ce morceau de Dido que personne ne connaissait, et c'était d'une force inouïe, ce morceau. Et pourtant, pas très joyeux, c'était l'histoire de... Parce que non, il y a une référence à ça dans Frame, parce qu'avant, c'était sa copine dans le coffre de sa voiture.
Voilà,
maintenant, il met Mélène Atrum, c'est ça, dans le coffre de la voiture.
Ouais.
Et ce disque, voilà, il a le problème de la plupart des disques de rap aujourd'hui qui font, 77 minutes. On sait toujours pas pourquoi. Est-ce que c'est comme avant les disques de rock il y a 20 ans, c'est pour montrer qu'on peut en faire? On sait que c'est techniquement juste pour avoir le plus de morceaux à télécharger pour les faire monter dans les charts. Un truc de quantité pure. Et c'est surtout lui, on se demande qu'est-ce qu'il fait. Il a, au bout de 25 ans, est-ce que je fais de la nostalgie? Est-ce que je m'arrête? Est-ce que je fais du crossover? Est-ce que je fais... Bon, en fait, je fais tout. Je prends tout. Je fais tout. Et moi, c'est ce qui me gêne un peu, quoi. Moi, tous les featuring à perpète, toujours les mêmes, Beyoncé, Pink, voilà, c'est du haut de gamme, mais ça fait que c'est, on ne sait plus si on est dans un disque de R&B, parce que c'est les mêmes gens sur tous les disques. Et après, le paradoxe, c'est que les morceaux, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les deux derniers morceaux. Alors, on peut se dire, ah non, il va pas nous faire le côté, j'ai mûri, maintenant j'ai une conscience, moi, ma pauvre fille. Et pourtant, c'est le seul moment où je trouve que ça passe et ça me touche plus. Qui gueule contre Trump et tout, on se dit, c'est pas mal, puisqu'il était plutôt de l'autre côté, il était plutôt identifié à cette Amérique-là. Et là, qui retourne sa veste, pourquoi pas? C'est plutôt un signe de maturité, effectivement. Mais est-ce qu'on a vraiment envie qu'il mûrisse? Et on est un peu le problème avec ce disque tout le temps. C'est
question quand il repart dans à les poser et tout, à Pascaline Potvin. Avant que l'émission ne se termine, Hugo.
Il y a à boire et à manger là-dedans. Ouais. À vous de picorer.
Ouais, non, mais alors moi, j'irai pas Pascal. Trop. Il y a pas de grand. Moi, je ne bois ni ne mange pas grand-chose en fait. Dans ce disque, vraiment, j'ai plutôt l'impression d'être dans un grand supermarché où il y en a pour tous les goûts justement. Il y a de la pop avec tous ces featuring, Pink, Beyoncé, Ed Sheeran. Vous compariez tout à l'heure Arnaud à Eminem à Miss France. Ben, du coup, on n'est pas surpris de retrouver Ed Sheeran. Voilà. Dès qu'on se tourne, de toute façon, on le voit. Il est là partout, tout le temps. Et dans une chanson assez mauvaise. Les productions, je trouve, sont pas bonnes. Celle de Rick Rubin.
Sur King Crawl, non, Ed Sheeran? Non. Sur un album, t'en as parlé il n'y a pas longtemps, non? Mais qui était un meilleur album.
Mais oui, sûrement quelque part.
Il est partout.
Il était à la cantine, moi, ce
midi.
Oui,
c'est vrai.
Oui, dans la BO de la cantine, ce midi, je ne vous mens pas. Oui, non, c'est vrai. Et donc, il est partout, on n'en peut plus. Et les productions un peu néo-métal de Rick Rubin ne sont pas bonnes. D'ailleurs, elles sont. C'est marrant de voir, elles sont très en dessous, la voix est très très devant, comme si quelque part il les assumait pas. J'avais parfois l'impression d'avoir cette espèce de fond musical qu'on entend dans les jeux vidéo, qui est là au fond mais qui n'a pas vraiment d'identité. Je vous parle même pas des samples de Joan Jett et des Cranberries. Enfin moi ça a été un cauchemar. Hein.
Le sample des
Cranberries, Zombie, j'avais l'impression d'être dans le retour dans les années 90 mais version cauchemardesque, comme dans Stranger Things, le monde à l'envers, horrible, cauchemardesque. C'était ça.
Backward.
Eminem et les Cranberries. Le versant ensemble, un truc, le versant noir des 90s. Donc voilà, plutôt un mauvais album. Effectivement, moi là où je le sauve un petit peu, c'est sur ses chansons politiques parce que ben il s'adresse aux gens qui s'identifient à lui historiquement, white trash, blanc, populaire, pauvre. Et on sait qu'il a perdu des fans quand même. En s'attaquant à Trump, il a eu des réactions de fans de la première heure qui m'ont dit « C'est terminé, Eminem, je ne t'écoute plus ». Aujourd'hui, tous les artistes américains, la plupart, prennent parti contre Trump. C'est plutôt audacieux de le faire quand on sort de sa bulle, comme il le fait lui.
Voilà. Bon,
donc on peut saluer ça.
Voilà. Restons sur ce salut, juste pour dire qu'effectivement, si on écoute cet album, ce qu'il est comme un album, c'est absolument incompréhensible, vraiment, c'est ce que j'ai ressenti également. Parce que c'est quand même très étrange de trouver des morceaux que moi, il y en a certains que je saute, dont Frame, qu'on vient d'entendre, que je trouve quand même d'une grande efficacité à plusieurs points de vue, et des choses tout à fait, mais impossibles à assumer pour qui que ce soit. Voilà, donc c'est vrai que je suivrai l'avis du Hugo Cassavetti. Picoré dans Revival, d'Eminem, qui est sorti chez Aftermath, Shady, Interscope. Et avant de conclure tout à fait l'émission, le jeu de la dispute, on ne fait pas gagner des disques d'Eminem, mais autre chose. Mais d'abord, on va s'intéresser à la question du jeu d'hier au soir pour en connaître la réponse. Grégoire Di Fiore nous a rejoint.
Quel est le nom de l'île italienne célèbre pour ses ateliers de verrerie? Et la réponse était l'île de Murano.
Ce soir, invitation donc pour Artisans de la scène. C'est l'exposition qu'on peut voir en ce moment au Centre national du costume de scène à Moulins. Et c'est jusqu'au 11 mars. Quelle est la question, Grégoire?
Quelle maison de couture avait porté plainte contre Chanel pour contrefaçon?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfcr@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions et bien sûr, en passant, vous abonner au podcast de la dispute si ce n'est pas encore fait. Demain, 19h, émission Art Plastique avec Anaëlle Pijat, Corinne Rondeau et Florian Guettet. À notre affiche, la rétrospective César au Centre Pompidou, Degas Danse Dessin, c'est au Musée d'Orsay et enfin, Alex Cecchetti, Taman Choud, c'est à la ferme du Buisson.